Palache ou sur Rouge, en radio. Nous voici déjà 11 juin, l'été ne saurait tarder, c'est pourquoi ce soir nous hissons la grand voile pour mettre le cap au large. Aventure marine et chasse à la pollution plastique avec Yvan Bourgnon comme invité. Ce soir, la radio troque ses chaussures rouges, contre une paire de bottes de la même couleur. Autour de la table, Julie, Ariane et Lucien, Fatima pour l'assistance technique et Patrick pour la réalisation. Notre habituelle phrase d'accueil prend cette fois tout son sens. Bienvenue à bord. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Bonsoir Ariane.
Bonsoir.
Et Lucien.
Bonsoir.
Mais quel bonheur.
Bonsoir à toutes et à toutes. À toutes et à tous, ouais.
Et pour commencer cette émission, un portrait de notre invité par Patrick.
Oui. On a décidé d'échanger un petit peu les rôles ce soir. Mais qui a pu emmener à l'autre bout des mers un enfant né au début des années 70 à 1000 mètres d'altitude aux portes du Jura suisse, bien loin des vagues et des écumes? Sans doute une passion familiale qui va l'emmener dès l'âge de 8 ans dans un tour du monde qui va durer 4 ans. Dès lors, la mer et les océans ne quitteront plus Yvan Bourgnon. À 13 ans, il n'est plus dans les montagnes jurassiennes, mais en Loire-Atlantique, à Saint-Brévin-les-Pins. Quelques années plus tard, il décide de vivre de sa passion, la navigation. Or, il aurait pu le faire sur une coque de noix ou dans un sous-marin, mais pour que les sensations soient totales, il a choisi les multicoques. Certainement pour la vitesse, pour le fun et pour le défi que représentent ces fantastiques machines que l'on n'a pas baptisées par hasard les Formule 1 des mers. S'ensuit alors de grandes courses, souvent couronnées de belles victoires. En 1995, la première Transat Jacques Vabre, qu'il remportera 2 ans plus tard avec son frère Laurent, mais aussi un triplé jamais égalé, le Mini Fastnet, la Transgascogne et surtout la Mini Transat. Yvan va alors enchaîner victoires, premières et records. En 2001, il devient le détenteur du record du défi du Détroit de la Manche en équipage. Et en 2005, il bat le record des 24 heures, 610 miles. Record absolu dans la catégorie des 60 pieds, toujours inégalé. Les victoires sont au rendez-vous et les difficultés rencontrées par Yvan Bourgnon démontrent alors sa force de caractère et sa résistance. En 2002, lors de la route du Rhum, alors qu'il a chaviré, le navigateur reste 5 jours à bord, refusant d'abandonner son bateau retourné. 6 ans plus tard, il passera le Cap Horn en catamaran de sport avec une boucle de 450 miles et 60 heures sur l'eau dans des conditions inhumaines. S'ensuit le record des 24 heures en voile légère sur un Acra F20 carbone au Brésil, puis il devient en 2012 champion d'Europe sur catamaran Acra et champion de France des raids en catamaran F18. Il y a 5 ans, il se lance dans un défi personnel et sportif considéré comme impossible par ses pairs. Faire le tour du monde en catamaran de sport sans habitacle et sans GPS. Les incidents et accidents sont nombreux, les difficultés sont à la limite du supportable, mais il réussit son pari et boucle son tour du monde le 23 juin 2015 en Normandie, après 230 jours en mer. C'est un succès et une grande première. Plus récemment, il se lance un autre défi. La bataille qu'il va désormais livrer n'est plus face aux vagues, aux vents, aux éléments qui se déchaînent, mais contre notre société de consommation dont les larges excès ont un impact, hélas sous-estimé, sur la pollution des mers et des océans qu'il a lui-même constaté. À bord du Manta, un boiteau nettoyeur révolutionnaire, il collectera désormais les plastiques en mer avant qu'ils ne coulent et ne soient ingurgités par les êtres marins. Ce soir, pour cette émission du mois de juin, partons voyager avec Yvan Bourgnon.
Bonsoir Yvan Bourgnon.
Bonsoir.
Merci beaucoup, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission.
Eh bien moi également, ouais, ça me fait chaud au cœur d'être avec vous. Là, on va passer un bon moment, j'en suis sûr.
Super. Pour commencer ma première question, j'ai vu que sur votre site internet, vous vous présentez comme un gladiateur des mers. Comment devient-on navigateur lorsqu'on est à la Chaux-de-Fonds ?
Ça serait un peu présomptueux de me présenter comme ça. Hein. C'est plutôt mon entourage qui m'a appelé comme ça. Mais en fait, moi, j'ai surtout eu beaucoup de chance d'avoir une famille, d'avoir des parents qui, certes, étaient boulangers à la Chaux, mais qui ont décidé de tout quitter pour aller faire le tour du monde en famille. Donc ça, forcément, ça n'avait pas de prix, quoi. On a vécu 4 ans au milieu de l'océan, au milieu de la mer. À l'époque, en plus, il n'y avait pas de technique de navigation moderne avec le GPS, l'informatique et tout ça. Donc c'était vraiment un apprentissage de la vie avec très peu de choses.
Et du coup, plus tard, vous avez fait plusieurs fois le tour du monde. Quelle différence vous avez remarqué d'année en année? Quelles évolutions de la planète vous avez pu constater?
Eh bien, en fait, c'est assez clair. Hein, tour du monde en famille pendant 4 ans à l'âge de 10 ans, à la fin des années 70. Et puis, 33 ans plus tard, le même tour du monde. Et là, je découvre un océan complètement pourri par les plastiques, pourri par les déchets, des containers. Et voilà, moi qui avais profité pleinement de cette beauté, de voir que toute la planète, heureusement, mais notamment tout ce qui était le long de l'Indonésie, le Sri Lanka, les Maldives, tout ça, beaucoup. J'étais vraiment choqué par cette pollution et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des nanoparticules de plastique, il y avait vraiment des macro-déchets qui traînaient dans la mer.
Et du coup, c'est suite à ce tour du monde que vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose, moi aussi, il faut que je m'engage pour lutter contre cette pollution océanique.
Tout d'abord, on s'entoure, hein, parce que c'est pas tout seul qu'on réussit ce genre de projet. Il faut beaucoup de force, beaucoup de belles énergies autour de moi. Et puis après, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable éventuellement d'aller récupérer une petite partie de la pollution maritime? Et puis voilà, de fil en aiguille, on se lance une équipe technique, un consortium technique avec 7 bureaux d'études, 25 personnes. Et puis là, on a réfléchi à l'idée d'inventer un bateau révolutionnaire qui va utiliser les énergies renouvelables, qui va utiliser des techniques modernes pour mettre vraiment la technologie au service de l'écologie en inventant littéralement le premier voilier capable de ramasser les déchets plastiques en mer.
Je propose peut-être de revenir un tout petit peu plus tard sur ce projet qui a l'air vraiment formidable. Peut-être si vous pouvez plus tard nous parler justement des aspects techniques de ce bateau. Mais on voulait d'abord commencer peut-être le début de l'émission vraiment en parlant de vos voyages pour pouvoir faire voyager les auditrices et les auditeurs. Et je me demandais, parmi tous vos voyages, tous vos périples, quelle est la rencontre la plus surprenante que vous avez faite?
Difficile à dire, mais...
vaste sujet, ouais. Effectivement.
Mais des rencontres, j'en ai eu tellement beaucoup et tellement des magiques. Moi, je pense que la rencontre justement la plus surprenante, c'est d'avoir réussi l'été dernier à naviguer 8000 km sans voir de civilisation. Et ça, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'encore il y avait des endroits sur la planète où on pouvait naviguer, faire du cabotage pendant 70 jours sans voir une trace de vie humaine ou sans voir une trace de la civilisation.
Oui, à part peut-être un ours blanc, mais...
voilà, tout à fait, mais... ça m'a surpris, ouais.
Donc racontez-nous justement, vous vous êtes retrouvé face à un ours polaire durant ce voyage-là.
Alors je sais que c'est toujours un peu anecdotique ces rencontres-là, mais effectivement je rêvais moi-même de voir un ours polaire, mais d'en voir un si proche, je ne pensais pas que ça m'arriverait. J'étais sur les derniers jours de mon défi, j'étais au mouillage du côté de l'île de Baffin, et enfin j'étais dans un peu tranquille, et là... Je m'endors, je me repose et au milieu de la nuit, tout d'un coup, le bateau bascule sur son étrave. Là, je comprends que c'est une masse énorme, qu'il n'y a qu'une masse énorme qui a pu incliner le bateau à ce point. Et là, forcément, je comprends que c'est un ours polaire. Donc, je sors de mon sommeil profond. Donc là, la dose d'adrénaline, elle est monstrueuse. Et là, tu aperçois la bête qui est à 3 mètres de toi, qui a posé ses pattes sur le pont du bateau. Et le réveil, il est d'une violence inouïe. Et puis là, tu te demandes ce que tu dois faire. Donc, tu te mets à crier. Là, tu prends le revolver. Tu tires un premier coup en l'air parce que c'est ce qu'on m'avait appris, à essayer de lui faire peur. Et là, tu te rends compte que si l'ours polaire, il ne réagit pas. Donc, tu te dis, je suis tombé sur un ours polaire qui est sourd.
La poisse.
Tu retires un deuxième coup et puis ça ne bouge toujours pas. Puis c'est un peu la pénombre, donc tu vois à peine ses yeux, tu sais pas trop s'il te regarde, ce qu'il voit, ce qu'il va faire. Et puis voilà, après, tu te mets à le viser parce que tu te dis ça va être lui ou moi à un moment donné. Et puis les minutes passent, là, elles sont interminables. jusqu'à ce qu'il se retire et puis qu'il décide de rentrer à terre à la nage, quoi. Donc c'est vrai que c'est des rencontres majestueuses, mais pour le coup, là il m'a vraiment réveillé un peu trop violemment.
Ouais. Ouais, j'imagine, ouais. Alors, ça peut être magnifique de voir un ours polaire, mais dans ces conditions-là, vaut mieux pas. Hein.
Voilà, je ne vous conseille pas. Hein, la bête de 500 kilos qui est plus lourde que votre propre bateau.
Waouh.
Ben, on peut c'est dire terrible. Que vous avez le cœur bien accroché.
Ah ben, j'ai fait avec. Hein. Après,
c'est un bon test.
C'est un bon test. Après, ce qui a été plus dur dans cette aventure, finalement, ce n'est pas l'ours polaire, parce que oui, ça affiche une trouille monumentale, ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais ça dure un quart d'heure, quoi. Alors que quand j'étais bloqué dans les glaces, là, c'était vraiment emprisonné dans les glaces. Là, tu sens que le bateau peut se craqueler sous tes pieds en quelques minutes seulement. Et tu sens bien que bah, ta survie, elle tient un peu de choses. Et que, voilà, il faut... T'as un nœud dans le ventre et puis tu te dis quand est-ce que je vais pouvoir enfin me détendre, quoi.
Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que le type de bateau sur lequel vous avez l'habitude de naviguer, pour ceux qui n'auraient pas la représentation, enfin tout le monde voit ce qu'est un catamaran, mais ce sont quand même des modèles de bateaux qui ne sont pas équipés d'une cabine, d'une couchette intérieure, c'est vraiment du cata de sport.
Complètement, oui, c'est vraiment le cata de sport, c'est deux coques, un mât, une voile, pas de cabine, c'est dehors à la belle étoile. C'est vraiment la navigation la plus pure possible. J'avais quand même un pilote automatique, mais qui fonctionnait très mal. Mais sinon, voilà, c'était vraiment une navigation très sobre.
Donc là, dans le cadre de ce voyage, vous avez vraiment réussi un défi incroyable. Vous êtes le premier skipper qui a traversé le passage du Nord-Ouest sur ce catamaran de sport de 6,5 mètres, si je ne me trompe pas. Donc c'est un voyage, vous êtes passé par les glaces de l'Arctique, de l'Alaska au Groenland. C'est vraiment, vous avez pris quand même des énormes risques. Quelles sont pour vous les limites à ne pas dépasser?
Est-ce qu'il y en a pour vous? C'est ce que j'ai vécu d'après moi, en tout cas. Après, chacun a des limites qui sont différentes, c'est ça qui est bien. On n'est pas tous à vouloir mettre le curseur au même endroit. On est dans sa vie, on a envie de le mettre un peu plus de risques, un peu moins, en fonction de ses sensations, de son intuition. Voilà, moi, j'ai senti que dans ce défi, effectivement, j'avais même été au-delà de mes capacités. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé, après ça, de calmer le jeu. Quand tu reviens à un défi en disant, j'avais 9 chances sur 10 d'y rester, bon, là, tu comprends que le ratio, il n'est pas bon. Donc, tu te dis, le prochain coup, on va essayer d'inverser ce pourcentage.
Alors pour bien se mettre dans cette ambiance dont vous nous avez fait part déjà en partie, on est allé repiquer quelques extraits sonores, évidemment, puisqu'on est à la radio, de votre DVD de ce fameux Tour du Monde qui avait lieu il y a 5 ans, sauf erreur, hein, sinon c'était 2013, oui, absolument. Alors on a pris quelques extraits d'ambiance sonore sur le bateau.
Novembre. Yvan quitte Las Palmas pour entamer sa traversée de l'Atlantique, seul.
Ça, c'est la vie.
Alors la navigation en sextant, en fait, c'est la navigation la plus pure qu'on puisse imaginer. C'est un petit appareil qui va mesurer un angle entre l'horizon et les astres, les étoiles ou le soleil. Et après, par le biais d'une montre précise et de calculs arithmétiques, on va réussir à positionner approximativement, on va dire à 5-10 km près, le bateau sur la Terre. Mais c'est assez magique parce qu'il n'y a pas besoin d'électronique, il n'y a pas besoin d'informatique.
Je me suis arrangé mon petit coin pour que je puisse tout gérer, même quand je dors.
Il y a 60 nœuds de bord. C'est pas fait 10% du parcours que ça fait déjà la quatrième tempête. Elles sont de plus en plus fortes. Putain, mais ça n'arrive pas, quoi. Quelle tempête, bordel de merde.
Et puis là, tout d'un coup, le bateau, il y a une accélération fulgurante. J'ai pas le temps d'affaler les voiles et tout. Boum, je me retrouve à l'envers en deux temps trois mouvements. Alors, pas de mal, pas de bobo. Mais par contre, la nuit est arrivée. Et je me suis retrouvé en pleine nuit à me battre pendant près de 4 heures pour essayer de redresser le bateau.
Deuxième tronc d'arbre.
Et pour éviter ça, en fait, je me suis mis à faire tout ce qu'on n'apprend pas dans les livres de voile. C'est naviguer au contraire dos au vent, vent arrière. Et là, le bateau prend les vagues et va à la même vitesse que le vent. Du coup, il n'y a pas de différentiel avec le vent et les vagues. Et du coup, j'arrive à rester à l'endroit.
Ouais, ça fait plaisir après une petite semaine de solitude. Un petit oiseau, un gros, hein, il doit bien faire 80 cm de 1 mètre d'envergure. Et il s'en sort pas mal, hein. Oh là là, il avait bien tenu, hein. On félicitera ce foot bassin qui a été exemplaire sur son perchoir.
Un peu comme si on y était finalement, Yvan. J'ai une question. Quelle est cette idée de partir avec un sextant plutôt qu'un GPS ?
C'était par passion, hein, parce que mes parents m'avaient appris à naviguer de cette manière-là. Et c'était pas forcément pour durcir le défi, c'était vraiment pour retrouver les étoiles, pour retrouver ce monde, pour dire voilà, je suis capable ou pas de naviguer juste avec les étoiles. Et voilà, c'était vraiment. Par souhait volontaire. Quoi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment on fait, comment est-ce qu'on mesure les angles par rapport aux étoiles pour savoir où on est ?
Retirez la bouche, s'il vous plaît. Pas de trousse de toilette, laissez-la où c'est ici.
Ah, on entend du monde derrière vous.
On sent la préparation quand même là.
Pas d'autres appareils électroniques.
Alors, à mon avis, mais c'est qu'un avis, hein. Je pense que Yvan est en train d'aller prendre un avion, parce qu'on a parlé horaire tout à l'heure, et je pense que là, on doit être au contrôle de sécurité de l'aéroport. C'est une supposition, toute gratuite certes, mais c'est un peu l'impression que ça laisse. Alors, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, le temps que les petits bacs en plastique traversent de l'autre côté. Oui ?
Vous êtes là ? Oui, je suis revenu, je suis désolé, j'ai eu un petit souci.
Alors, est-ce que vous seriez dans un aéroport par hasard, Yvan ?
Pardon ?
Est-ce que vous seriez dans un aéroport ?
Oui, j'ai exactement. Ouais. J'ai tout compris.
Ouais, on a bien deviné. Donc là, passage du contrôle de sécurité, c'est fait. Ou presque.
Exactement. J'ai été libéré par les loups, là.
Ouais, qu'est-ce qui est le plus dangereux, finalement ? Un douanier d'aéroport ou un ours blanc ? On peut se poser la question.
Les autorités, j'ai toujours un peu de mal. L'autre jour, j'étais au commissariat, donc c'est toujours un problème. Mais, mais je m'adapte, hein. Je me suis civilisé un peu depuis.
D'accord. Très bien. On parlait de sextant juste à l'instant. Je ne sais pas si vous avez entendu la question de Julie.
Non, je suis désolé.
Pas de souci.
Je me demande si vous pouviez nous expliquer comment vous faites justement pour vous repérer par rapport aux étoiles, pour savoir votre position et puis où aller. Pour des novices, une novice en tout cas comme moi qui ne saurait pas comment faire, comment ça se passe ?
En fait, c'est pas nous qui avons inventé tout ça, hein. C'est Christophe Colomb et tous ceux qui étaient avant nous. Mm-hmm. Et c'est des gens qui nous ont montré le modèle. Donc en fait, le sextant, c'est juste le calcul d'un angle entre les étoiles et puis l'horizon. Et après, on a une calculatrice qui fait des calculs, une carte marine, une montre de précision. C'est d'ailleurs tout l'enjeu pour au XVIe siècle de réussir à concevoir des montres et des horloges assez précises pour pouvoir faire le point. Et c'est là où les Suisses, d'ailleurs, se sont illustrés évidemment les premiers en étant capables de mettre à ces équipages et ces grands explorateurs des montres de précision. Et ça leur permettait d'être plus précis dans leur position.
Moi, il y a quand même encore une autre question qui me turlupine, mais je crois que c'est toujours un petit peu face au défi, parce que finalement, des sortes de bateaux, il y en a tout plein, dès qu'ils sont vraiment prévus pour naviguer plutôt au long cours. Et là, le choix du catamaran de sport, j'ai compris que vous étiez passionné par cette forme de bateau, par la forme du catamaran. Mais enfin, engager le tour du monde avec un bateau comme celui-là, c'est quand même un gros risque, ça me paraît évident, mais je crois que c'est surtout un défi que vous avez voulu relever, en l'occurrence.
Bah, c'est sûr que bon, je suis un homme de défi. Hein. Ça fait des années que j'ai entamé ce genre d'aventure. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est vraiment de trouver des nouvelles solutions, de me mettre effectivement un peu en danger, de me mettre dans des situations un peu compliquées, parce que tu progresses en fait 100 fois plus vite que quand tu fais de la compétition. Avant de trouver en compétition dans une situation similaire, il va falloir faire une centaine de transats. Et là, c'est sûr que de se retrouver tout de suite à l'épreuve, bah, c'est intéressant. La mer nous permet d'apprendre beaucoup, de progresser. Et voilà. Et puis dans l'aventure, tu vas forcément dans des endroits qui sont très peu explorés par les humains. Donc forcément, tu découvres des choses hallucinantes, quoi.
Hallucinant dans quel sens? Au niveau paysage, au niveau navigation?
Ah bah oui, c'est sûr que quand tu vas dans le Grand Nord et que tu navigues au milieu des belugas, des narvals, des baleines à bosse, voilà, des phoques en pagaille, des sanctuaires d'oiseaux, il y a des millions d'oiseaux, bon, et tu vas mouiller dans des baies où tu es le premier homme à avoir été mouillé dans cette baie-là, bon là tu te dis, ça, ton voyage il prend quand même une sacrée dimension.
Ah, il y a un petit côté... Il y a un petit côté Christophe Colomb, finalement, pour revenir au sextant.
Voilà, j'aurais adoré vivre à cette période-là. Hein. Moi, c'est voilà. Bon, après, leur motivation, c'était souvent l'argent. C'est ça qui était un peu malheureux. Mais malgré tout, découvrir le monde à cette époque-là, ça devait être absolument incroyable.
Autre question un petit peu technique. Sur un catamaran comme celui-là, donc on l'a dit, hein, deux coques et puis pas de cabine. Au niveau ravitaillement, nourriture, bon, j'imagine qu'on oublie de cuisiner, mais quelles sont les solutions adoptées dans ce cadre-là?
En fait, dans la coque, dans les coques, il y a quand même de la place pour stocker un peu de nourriture, un peu de vivres. Alors c'est limité, hein, je dois dire que voilà, sur le passage de l'Ouest, par exemple, 70 jours de mer, même s'il y a une escale, j'ai manqué de nourriture. Clairement, et il a fallu vraiment se serrer, faire des économies. C'est un projet, de toute façon, on m'avait conseillé de partir en surpoids de 12 kilos. Donc déjà, tu as 12 kilos de réserve, ça, tu fais comme les phoques. Mmh. Et puis ça te permet de mieux résister au froid. Et puis après, forcément, faut essayer de faire avec ce que tu as. Et bien, c'est des plats lyophilisés qui sont très bien foutus, qui sont très caloriques, voilà, qui ont un rapport poids... stockage et nutrition qui sont très très bons. C'est vrai que de ce côté-là, bon, on a fait tellement de progrès dans le domaine que c'est vrai qu'on a moins de problèmes que je pense que nos anciens explorateurs. On a ce qu'il faut pour nous alimenter. Et curieusement, un des problèmes que je pensais les plus compliqués, c'était de trouver de l'eau en fait. Et Dieu sait s'il y en avait partout autour de moi. Oui, mais l'eau de mer, évidemment, on ne peut pas la boire.
Non, c'est pas terrible.
Et l'eau des glaçons, en fait, comme ils ne sont pas très hauts à cause de la fonte des glaces, bah, ils sont quand même relativement salés, ces glaçons et ces icebergs. Et donc, du coup, je risquais vraiment d'être en rupture, sachant que l'océan Arctique, c'est un des océans les plus ensoleillés l'été. Donc, il y avait un vrai risque qu'il ne pleuve pas, qu'il ne neige pas. Donc ça me faisait un peu plus, ça m'a inquiété un peu plus. Puis il s'est trouvé finalement que la météo était beaucoup plus pourrie que prévu. Je me suis vraiment retrouvé dans une situation avec beaucoup de pluie, beaucoup de neige, et donc du coup, j'ai pas manqué de quoi.
Alors, Yvan, tu nous dis tout ça, alors que moi, ce qui m'épate, c'est vraiment de dire, mais comment tu fais pour gérer le froid quand tu es au milieu des icebergs? Comment tu fais pour gérer l'humidité qui finalement finit par geler? Comment est-ce que ça se passe? Tu peux nous expliquer ou bien? Parce que je pense que.
En fait, la grosse difficulté, effectivement, là, c'est que. Un explorateur normal, comme Mike Horn ou les autres, lui, à un moment donné, il va planter sa tente, il va allumer son réchaud, il va faire monter la température dans la tente, il va assécher l'intérieur de la tente avec son réchaud, et puis il va se hisser dedans, il va pouvoir se déshabiller, il va pouvoir se mettre dans un sac de couchage qui est pas trempé. Et en fait, du coup, mine de rien, pendant 4 heures, 6 heures, 8 heures, il va quand même récupérer un maximum. Et ça, c'est vrai que c'est une situation qui n'était pas possible de mon côté. Alors, c'était peut-être un petit peu plus chaud que des moins 40 que peut vivre un Mike Horn ou un autre. Mais par contre, toujours dans une ambiance extérieure, toujours dans une ambiance humide,
c'est ça.
Et de manière permanente. Donc, si bien que mon sac de couchage, en fait, je peux quasiment dire que 90% du temps, il était trempé. Et donc, du coup, je me mettais dans mon sac de couchage, mais trempé. Donc, ça, c'est mieux que rien. Mais c'est sûr que c'est pas du tout le même résultat.
Mais tu pouvais avoir chaud dans ce sac de couchage trempé ou bien comment ça se passe? Parce que
Bah, ça te réchauffe un peu, hein. Ça c'est sûr, t'es mieux un sac de couchage trempé qu'avec rien.
Ouais,
après, c'est sûr que quand j'ai perdu mon sac de couchage 8 jours avant l'arrivée, bon là j'ai vu la différence, hein. Même trempé, ça m'empêchait de geler mes deux pieds. Et puis résultat, sans sac de couchage, je suis arrivé avec les deux pieds gelés à Nuuk, donc au Groenland. Donc on voit bien que ça peut vite se dégrader et que ça tient un peu de choses.
Et quand on est en humidité tout le temps comme ça, au niveau de la peau, comment elle résiste? Parce que finalement, souvent quand on est en humidité, la peau finit par avoir... les pieds deviennent mous, etc. Comment ça se passe?
Ouais. Eh bien, en fait, j'essayais quand même d'oxygéner un peu la peau régulièrement en mettant, en enlevant ma combinaison. Et en l'aérant, en fait, donc je profitais de la moindre opportunité, en fait, le jour où il n'y avait pas de pluie, pas de neige, pas de tempête, pour pouvoir vraiment me déshabiller et m'assécher. Et puis après, j'ai trouvé mes petites techniques. Donc au début, je faisais ces expéditions, j'avais mes chaussettes en Gore-Tex, puis vous voyez que ça ne marchait pas. Et puis finalement, avoir des chaussettes en coton... à 2 euros de chez Decathlon, là, ça marchait très bien, parce qu'en fait, ça fait éponge, et ça éponge complètement, en fait, l'eau qui descend, évidemment, au niveau des pieds. Ouais. Et du coup, avec ces chaussettes que je change quand même régulièrement, j'arrivais à garder les pieds à peu près durs. J'ai pas eu de soucis trop de peau. Le problème, c'était plus les crevasses, parce que l'ennemi de la crevasse, c'est le froid, mais c'est surtout l'humidité. Donc, du coup, quand tu as une crevasse à la main, en fait, elle ne fait que se creuser, que s'agrandir. Et ça, tu sais que le seul moment où tu pourras enfin cicatriser, c'est en rentrant chez toi à la fin. Donc, du coup, quand tu vois apparaître des crevasses dès le cinquième jour de mer, tu te dis, oula, comment je vais terminer? Et puis, j'ai terminé avec une crevasse, avec deux crevasses par doigt. Et là, effectivement, ça peut, à la fin, quand tu as pu manipuler tes bouts, à hisser tes voiles, voilà, forcément, c'est. Ça commence à être un peu hardcore.
Ok. C'est vraiment impressionnant. On entend des dauphins derrière, ou je sais pas, ou c'est peut-être une porte qui
s'ouvre.
J'hésite entre la porte et le dauphin. Ouais. Ouais.
Désolé, on entend un peu ce bruit-là. Si tu peux peut-être t'éloigner de celui-là, ce serait chouette, Yvan.
C'est
tellement
important.
Ce que tu nous dis là est tellement important et tellement.
Désolé, je n'étais pas au bon endroit.
Pas de souci. Moi, je vous propose c'est qu'on fasse une petite pause en retrouvant quelques ambiances sur ce fameux catamaran. Et on se retrouve juste après pour aborder le sujet de Sea Cleaner et de ce projet Manta.
Avec plaisir.
Et nous voici partis avec ma louloute pour la troisième plus grande traversée. De mon tour du monde, toujours dans l'ouest, toujours dans le soleil.
Ça y est, je suis trempé complet. Et là, je sais qu'il va faire nuit. Je sais que demain, le lendemain, il va peut-être pleuvoir et que je ne vais pas pouvoir me changer pendant 2 jours. C'est tout bête, c'est que du quotidien. Mais d'être trempé 24 heures sur 24, c'est le froid, c'est vraiment pas agréable. Et ça m'a fait rager quelquefois.
On est encore là, encore en vie. La route continue, le bon Dieu veut qu'on soit encore sur la route avec ma louloute. Donc, pourvu que ça dure.
Mi-mai, la navigation est sportive dans cette deuxième partie du Pacifique.
Je viens de tomber à l'eau là. C'est la tempête, il y a 110 km/h de vent à peu près. Le bateau a enfourné sauvagement. Je suis tombé au pied de mât là, dans l'eau.
Bordel, il faut que je tienne. Il faut que cette tempête se calme aussi.
La mer est calme et surtout je me repose. J'arrive à dormir une demi-heure d'affilée. Ça me semble être un luxe incroyable. Et vraiment, j'ai des belles conditions, 15-20 nœuds. C'est tranquille. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est très agréable. Après le Pacifique qui m'a pas épargné, ça fait du bien. Ah, une baleine à plonger. Elle est là. Oh, magnifique. La première baleine.
Voilà, nous étions sur la mer avec Yvan Bourgnon, invité de ce soir dans la Chaussure Rouge en radio. On a parlé un petit peu des aventures sur ce catamaran, de ces tours du monde, de cette balade dans le Grand Nord, cette rencontre avec un ours blanc. Et puis ce soir, on voulait aussi aborder un petit peu la suite que vous avez devant vous, Yvan. C'est tout ce projet de Cyclinor et de ce projet Manta.
Ouais, moi je me demandais, quand on est un aventurier comme vous, on est souvent en première ligne pour témoigner des impacts de notre société sur l'environnement. Je crois que vous aviez dû abandonner la Transac Jacques Vabre en 2015 après être entré en collision avec un conteneur, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça a été un événement déclencheur, le fait qu'il y ait des déchets qui empêchent les navigateurs d'aller plus loin?
Ah bah clairement, si c'est quand même nous les navigateurs qui subissons déjà au maximum la pollution maritime. Donc ça passe évidemment par les conteneurs, hein, puisque j'en ai heurté 3 dans ma carrière sportive qui m'ont contraint à l'abandon, et souvent dans les courses des records qu'on allait gagner. Donc c'est assez frustrant. Et puis après, bah évidemment, dans le tour du monde là, que j'ai plus récemment fait, avec ce petit quota de sport, hein, à ras de l'eau, sans cabine. Quand tu es à ras de l'eau comme ça, bah, tu observes la mer 24 heures sur 24, tu vois vraiment ce qui se passe. Et forcément, bah, les filets se prennent dans les dérives, dans les gouvernails, les bouteilles d'eau, tu les entends contre la coque. Et donc, du coup, bah, voilà, tu es sur un tout petit bateau léger qui subit forcément tous ces objets flottants. Et là, j'ai été vraiment surpris vraiment de cette pollution. Et donc, du coup, bah, à un moment donné, tu te dis, si c'est pas moi un skipper ou un autre, et il y a d'autres skippers, heureusement, qui font aussi des belles choses dans le domaine, c'est voilà qui le fera, quoi. Parce que effectivement, c'est le problème de la mer, c'est qu'on les habitants sur Terre ne voient pas cette pollution, ne voient pas ce qui se passe, et ça, c'est terrible.
Yvan, on nous parle souvent du 7e continent qui existe ou n'existe pas, finalement, parce qu'il y a pas mal de discussions autour de cette question-là. Toi qui es allé sur les océans, tu es vraiment t'es le mieux placé pour nous parler de ça, finalement, parce que c'est pas que de la théorie, mais c'est vraiment de la pratique.
Alors, faut être très clair, nous, on n'a jamais dit qu'on allait ramasser les déchets plastiques dans le 7e continent. Ce qu'on appelle aujourd'hui le 7e continent, c'est effectivement ce qu'il y a au milieu du Pacifique. Et ce qu'il y a au milieu du Pacifique, c'est des concentrations énormes de plastique, mais pas de macro-déchets, tels que le grand public pourrait l'imaginer. Mmh. C'est vraiment des nanoparticules de plastique, des micro-déchets, et qui sont, alors, pour le coup, très destructeurs par rapport à la faune, par rapport aux poissons, aux plancton et aux oiseaux, mais par contre, ne sont pas visibles. Donc, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas des nappes de plastique à perte de vue. Nous, l'action de Cycliner, en tout cas sur le plan curatif, c'est d'aller chercher les déchets en mer, les macro-déchets, mais pas dans le 7e continent. Allez, on va aller les chercher près de la côte, près des sorties des grands fleuves, près des grandes villes, là où il y a des pollutions, là où le déchet plastique a été rejeté en mer depuis seulement quelques jours.
Et quel genre de concentration de déchets tu as vu lors de tes séjours en mer?
Ah bah alors là, tu retrouves de tout, hein. C'est quand même principalement des produits de consommation courante, donc la bouteille d'eau, le sac plastique, les jouets, tout ce qu'on a dans un supermarché. Et puis après, on peut trouver beaucoup de filets de pêcheurs. Il y a quand même la pêche halieutique qui pollue beaucoup, des blocs de polystyrène. Mais après, des trucs atypiques comme des poussettes, comme des frigos, des choses comme ça, des containers évidemment. Donc voilà, il y a quand même suffisamment de macro-déchets qui font une certaine taille et qui sont, eux, récupérables. Alors, évidemment, pas au milieu des océans, mais justement, on voit bien que 63% des plastiques proviennent de 10 cours d'eau. Donc, en se canalisant sur les zones les plus contaminées, sur ces 10 grands cours d'eau du monde qui polluent énormément, comme le Mékong, le Yangtze, le Gange, ben voilà, on peut avoir un ramassage efficace parce que ça se passe dans une zone très précise et très concentrée.
Alors, justement, par rapport à la zone, pour que nos auditeurs puissent bien voir où tu projettes d'aller récupérer ces déchets, quelle zone, sur la carte du monde, de quelle zone s'agit-il ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, les zones les plus contaminées, en fait, elles sont plutôt du côté de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique, le golfe de Gambie, le Nigeria, l'Amazonie avec le Brésil. Donc, c'est plutôt ces zones-là, effectivement. C'est évidemment un peu plus les pays en voie de développement. Et voilà, donc en Europe, il y a encore un peu de pollution, à l'est de la Méditerranée, des choses comme ça. Mais en tout cas, sur le macro-déchet, beaucoup moins qu'avant. Donc, évidemment, nos zones de priorité, elles sont plutôt dans ces coins-là.
Merci. Certaines voix s'élèvent pour dire que le projet Sea Cleaners demande de grands investissements pour finalement peu de résultats, et puis qu'il serait plus profitable de nettoyer les plages et les embouchures. Qu'en penses-tu, toi, par rapport à ce que tu as vu?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toutes les actions sont bonnes à prendre et sont efficaces, mm-hmm. et toutes les actions ne font qu'un petit bout du chemin. Donc, c'est vraiment l'union qui fait la force, pour le coup, dans le domaine. Il n'y a personne qui pourra prétendre avoir la solution à résoudre le problème. Les gens qui ramassent les déchets sur la plage, c'est absolument merveilleux, il faut le soutenir. Mais il ne faut pas oublier que les déchets plastiques qu'il y a sur la plage, ça ne représente que 1% des déchets jetés à la mer. Donc voilà, donc c'est loin d'être suffisant si on veut agir. Après, le projet Sea Cleaners, pour évidemment les détracteurs, il y en a, c'est une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce projet-là va bien au-delà de l'aspect curatif. Le projet de Sea Cleaners, c'est de collecter les déchets plastiques de manière la plus significative possible, en ramassant 20 000 mètres cubes de plastique par an. Mais ce n'est pas seulement ça, quoi. Il y a vraiment un travail qui est fait sur l'éducation, sur la sensibilisation. Et c'est vrai que ce bateau va être un vrai porte-étendard. Le jour où on va aller à Bali avec ce bateau qui aura mis 600 mètres cubes de plastique dans ses cales, et qu'on ira expliquer aux politiques, aux populations, aux décideurs locaux, voilà, on vient de ramasser les déchets plastiques devant vos plages, mais voilà, on va vous expliquer ce qu'on peut en faire aujourd'hui, et il y a surtout beaucoup mieux à faire que de les jeter à la mer. Vous avez des vraies solutions pour valoriser votre plastique, en voici quelques-unes, parce que nous, on va mettre avec ces cleaners des containers de recyclage de plastique, des pyrolyses qui fabriquent du carburant à partir du plastique non recyclable, et on va leur mettre des containers de pyrolyse à disposition pour qu'ils puissent eux-mêmes valoriser leur plastique et en faire quelque chose. C'est vrai que c'est quand même plus sympa d'aller chercher son carburant à une pyrolyse qui provient de ce plastique qu'à une station-service.
Donc, juste pour préciser, le principe de la pyrolyse, Yvan, c'est donc de récupérer l'énergie finalement que représente le plastique.
En fait, la moitié des plastiques ne sont pas recyclables. Donc, si on les ramène à terre, de toute façon, ils vont être enfouis sous terre ou incinérés. Donc, autant les incinérer à bord, dans des pyrolyses, qui permettent de faire fondre le plastique pour le transformer en carburant. Et ce carburant, ça tombe bien, on en a besoin à bord. Donc, on crée une économie circulaire à l'intérieur même du bateau. Et comme notre bateau, on veut le rendre autonome en énergie, ça tombe bien. C'est un vrai plus pour l'énergie du bord.
Il y a un petit peu des sujets qui tournent en ce moment dans certains pays. On veut par exemple supprimer l'utilisation des pailles, des couverts en plastique. Je pense qu'on peut saluer aussi cette solution-là. Reste que même si on les utilise, si on les élimine correctement, c'est-à-dire qu'on les jette dans une poubelle, il n'y a pas de raison qu'ils finissent en mer, ou finalement si quand même.
Non, a priori, les déchets qui finissent dans les poubelles sont quand même, en tout cas en Europe, assez bien gérer, même si on peut regretter encore qu'il y en a une trop grosse partie qui part sous terre aujourd'hui, mais c'est déjà beaucoup mieux. Après, évidemment, le triage, faire un super triage à la maison, c'est quand même essentiel, c'est ce qui nous permettra au maximum de recycler le plastique, parce que quand même le recyclage, c'est quand même la panacée, même si c'est assez limite aussi, parce que le recyclage du plastique, on sait qu'on peut recycler le plastique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais rarement plus, donc il y a bien un moment donné, le plastique, on ne pourra plus rien en faire. Et voilà, mais c'est vraiment en étant dans l'excellence au niveau de l'éducation, de la sensibilisation, du triage de déchets, trouver des équivalences au plastique, faire du recyclage, aller ramasser les déchets. C'est quand on sera excellent dans tous ces domaines qu'on pourra espérer un jour à peu près arriver à terme de ce problème. Moi, ce qui me réjouit quand même, et ce qui me donne une attitude positive, c'est que tout ce qu'on voit dans la mer aujourd'hui, c'est quand même, ça provient essentiellement des produits de supermarché. Donc, c'est la bouteille d'eau, le sac plastique, les emballages, etc. Et peu finalement de l'industrie pharmaceutique ou automobile. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, il existe clairement des supermarchés où il n'y a plus de sac plastique et que c'est faisable, il y a des alternatives à ça, on peut vraiment espérer que dans 10 ans, dans 20 ans, le plastique disparaîtra de nos supermarchés et du coup, la mer se sentira tout de suite beaucoup mieux. Quoi.
Disons, tout d'accord avec tout ça, on est toujours très en aval parce qu'on parle des déchets. Mais bon, alors, c'est les problèmes qu'on rencontre, qui est tout à fait visible dans tes voyages. Mais c'est de se positionner un peu plus en amont. Est-ce que finalement, la solution, c'est uniquement gérer nos déchets ? Y aurait-il pas une autre... Est-ce que tu ne vois pas une autre solution, toi ? Il me semble que tu l'as hurlé une fois au bout sur ton bateau.
Ouais, bah, clairement, il faut diminuer sa consommation. C'est ça. Et voilà. C'est clairement, on est tous des pollueurs. Hein. Moi, le premier. Donc, on est tous des pollueurs. On est tous à trop consommer. On est tous à faire les couillons. Donc, aujourd'hui, quand on va au supermarché, je suis désolé, faut qu'on fasse gaffe, putain, qu'on choisisse un trop produit qui n'a pas de plastique. Plutôt privilégier, évidemment, le verre, le carton, le papier, les choses qui sont plus facilement recyclables et faire le choix là-dessus. Voilà, il y a des magasins maintenant qui font propose de vrac. Il y a plein de bonnes solutions. En Suisse, il y en a plein. L'offre est de plus en plus là et c'est encourageant. Après, je pense qu'en Europe, ça tend vers le bon truc. C'est vrai que là où il y a du retard, c'est vraiment dans ces pays, l'Indonésie, les Philippines, l'Afrique. Et c'est pour ça que Cycleaner, son action, c'est pas d'aller éduquer, sensibiliser les gens ici en Europe, même si on va le faire un peu, mais c'est surtout d'aller dans ces pays complètement défavorisés. Ils savent même pas que jeter une bouteille d'eau à la mer, c'est mal. Et c'est là où on peut avoir un travail éducatif spectaculaire. J'étais encore en vacances à Oman il y a 2 semaines. Le taximan qui jetait ses déchets par la fenêtre, je lui ai expliqué pendant 3 jours voilà ce qu'il faisait. Et ben aujourd'hui, il m'envoie des vidéos tous les jours de ramassage de déchets qu'il a réussi à convaincre tous ses copains de le faire. Et voilà, ça peut aller très vite. C'est quand même même le mec le plus isolé de la planète, il comprend, il saisit vite qu'il y a peut-être beaucoup mieux à faire qu'avec ce déchet. Et voilà, les gens sont pas cons. Et voilà, simplement, il faut être sur le terrain. Et puis, il faut être crédible parce que les belles paroles, je pense que les gens en ont marre. Voilà, les technocrates qui arrivent avec leur costard-cravate, qui prêchent la bonne parole, ça fatigue les gens. Par contre, être sur le terrain, ramasser les déchets plastiques sur les plages, ramasser les déchets sur la mer, bah, t'es dans le concret, tu t'es bougé le cul, tu t'as fait une action, t'as transpiré, t'as ramassé ces déchets, et là, du coup, quand tu commences à avoir un discours, bah, t'es beaucoup plus écouté, t'es beaucoup plus crédible, voilà, et c'est beaucoup plus percutant, et c'est vrai que ce bateau aussi va avoir une grosse image, une grosse aura, c'est un vrai vecteur de communication, et puis on le sait, hein, et en touchant les médias, forcément, on touche un plus large public, et tant mieux, comme ça, on peut communiquer encore plus fort, quoi.
Oui, montrer que, ben justement, comme tu disais tout à l'heure, consommer moins aussi, même si nos pays occidentaux participent aussi à cela, il faut être clair. C'est vrai qu'on a bien ici appris à gérer ces déchets, ce qui fait que peut-être il y en a un peu moins qui partent dans les mers, mais quand même, on peut vraiment mieux faire. Et je crois que c'est le message que j'ai vraiment envie de passer à toutes et à tous. Et nous n'ayons pas peur de le dire, nous devons vraiment réduire notre mode de consommation, nous devons vraiment réduire la quantité d'objets que nous consommons sur cette planète, c'est vraiment réduire. Entrer vraiment dans une forme de décroissance.
Alors,
T'es d'accord avec ça, Yvan, ou bien ?
Oh bah ouais, il n'y a pas photo. Hein. on est parti dans des excès qui sont phénoménales. Hein. Ça fait peur, hein. Je veux dire, tous les jours, moi, je me prends peur d'avoir la consommation, la société de consommation. Hein. Là, c'est sûr qu'il faut mettre un coup de pied là-dedans. Mais voilà, ça va changer. Il ne faut pas forcément critiquer les industriels. C'est pas forcément eux qui répondent à la demande. C'est vraiment nous, chacun entre nous, un par un, qui devons réfléchir et adopter un autre système de vie.
Merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup.
Alors, comment on s'approche gentiment du décollage de l'avion, hein, Yvan, on est un petit peu court sur les horaires ce soir.
J'ai encore 3 minutes.
Hein. Ouais, parfait. Alors, juste le temps de nous dire où en est ce projet Manta à l'heure actuelle.
Le Manta, alors il est très bien avancé, on a de l'avance sur notre projet, on a fini nos études de faisabilité, on est sûr de pouvoir construire le bateau, on révolutionne, on a un bateau gigantesque qui fait quand même la taille d'un terrain de foot, 70 mètres de long, 49 mètres de large, on a attaqué la phase 2 des études, on dessine définitivement le bateau, on décide bientôt de quel chantier vont construire ce bateau, une construction européenne évidemment, et dans 2 ans, on démarre la construction du bateau qui va durer elle-même 2 ans, et en 2022, on verra le premier Manta à l'eau, sachant qu'évidemment, l'idée c'est de financer une centaine de bateaux à l'échelle de la planète. Ce premier bateau, c'est essentiellement les donateurs qui financent le bateau. On a 7500 donateurs, une trentaine aujourd'hui de mécènes. Donc c'est vraiment chaque particulier, chaque petite entreprise ou grande qui peut participer au projet. On a financé un quart du budget. On a un bateau qui peut paraître très cher, mais ce n'est que 2 millions d'euros par an par bateau. Hein, à l'échelle de 100 bateaux, ça fait 200 millions d'euros. C'est moins cher que de s'acheter Neymar au foot. Donc, je pense que la planète.
J'aime bien la comparaison.
Ouais. C'est moi. Si la planète ne peut pas se financer ça, je ne comprends pas. Quoi.
Oui, entièrement d'accord. Alors, on va vous laisser monter dans votre avion, Yvan. Est-ce qu'on ose vous demander votre destination ?
Destination Genève, voilà.
Ah, bon, d'accord.
Je suis à Nantes et je vais à Genève. Demain, on a la chance d'être estampillé ONU maintenant. Donc, on va présenter demain le projet Cycleaner à l'ONU. On fait partie des projets retenus pour présenter ce beau projet dans le cadre de la journée de l'environnement organisée par l'ONU demain à Genève.
Magnifique.
Dans ces soirées de la Chaussure Rouge en radio, on demande souvent à nos invités de faire un choix musical. Vous avez choisi Les Marquises de Jacques Brel. Et je vous propose que l'on se quitte avec ça. Juste avant, on va encore vous entendre sur l'un de vos catamarans. On est allé chercher quelques sons dans ce fameux DVD. On va se quitter avec ça. Et on va donc vous souhaiter bon vent, ce qui me paraît logique pour un navigateur. Et on espère que ce projet de Dumanta va aboutir.
Ben c'est gentil. Hein. Et puis désolé encore pour la communication difficile. Et puis je vous souhaite plein de bonheur et vive les Marquises.
Ouais. Et merci beaucoup Yvan d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour le message que tu as laissé. Merci d'utiliser ton expérience d'aventurier pour permettre de faire que les choses puissent être améliorées. Merci beaucoup, c'est très important. Merci.
À bientôt Yvan. Merci.
À bientôt, merci. Au revoir.
Bye bye.
Merci, au revoir. Au revoir.
Une eau absolument parfaite. La dernière fois que j'ai eu ça, c'était au Galapagos. C'est ça les zones intertropicales là, quand on est proche de l'équateur. Regardez comme elle est belle. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je fais le tour du monde. Vous comprenez un peu plus maintenant ?
40,6 degrés. C'est la température qui fait ici à l'ombre. Et donc, quand il y a un peu de vitesse, ben, ça va bien. J'ai un peu de vent frais qui circule, mais quand le bateau il est comme ça quasiment à l'arrêt, c'est la cuisson assurée. Ça fait 4 jours que je suis sans vent. Là, c'est vraiment le début du retour du vent après 4 jours. Ben, j'avoue que j'ai passé peut-être une des périodes les plus dures de mon tour du monde avec le moral un peu à zéro. Ah, c'est joli la Somalie, non ? Bon, d'accord, il y a quelques pirates, mais à part ça, le décor, il est plutôt sympa.
Voilà, j'ai passé le détroit de Gibraltar cette nuit. La bonne nouvelle, c'est que je suis dans l'océan Atlantique. Voilà, c'est l'océan de ma maison.
Yvan Bourgnon était donc l'invité de cette soirée de la Chaussure Rouge en radio. Avant de poursuivre avec le programme de ce soir et une chronique proposée par Julie à propos des pesticides, voici Jacques Brel, Les Marquises.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonne Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Voilà pour cette respiration musicale signée Jacques Brel, évidemment vous l'avez reconnu, choix de notre invité de ce soir, Yvan Bourgnon, qui n'a pas pu nous accompagner jusqu'à 21h ce soir, puisqu'on ne s'est pas forcément clairement entendu sur les horaires, et du coup il était déjà à l'aéroport pour prendre un avion en direction de Genève. On a évoqué ce projet Manta qui consistera à l'aide d'une série de tapis roulants de venir récupérer les déchets sur lesquels le bateau va passer, mais ce n'est pas la seule solution actuellement en développement. Il y en a d'autres, hein. Si vous regardez un petit peu sur internet, vous allez trouver d'autres solutions. Il y a d'autres gens qui cherchent des techniques pour tirer des barrages aussi avec des bateaux qui sont mûs avec des énergies renouvelables. Puis Lucien, toi c'est une auditrice en fait, hein, qui a évoqué encore une autre technique.
Tout à fait, comme vous l'avez vu, nous n'avons pas ouvert la ligne téléphonique aux auditeurs ce soir parce qu'on a été surpris par le fait qu'on a dû raccourcir d'un quart d'heure, une chose qui n'était pas prévue au départ. Donc effectivement, on a Karine qui nous a écrit pour demander à Yvan Bourgnon s'il connaissait le système, c'est de faire une grande barrière de bulles. Ça s'appelle thegreatbubblebarrier.com.
Bubble.
Bubble, c'est pas mal. Ouais, genre, mon accent est à tranche au couteau. Et c'est assez intéressant. On n'a pas eu le temps, désolé Karine, on n'a pas eu le temps de poser la question à Yvan. Mais c'est vrai que c'est un système intéressant et on invite tous les auditeurs à aller voir sur le site The Great Bubble Barrier. Alors, si je voulais .com. Si je voulais peine, on va en avoir pour trois quarts d'heure, donc je vais pas y arriver. Alors essayez de vous débrouiller avec ça.
Ouais, enfin c'est une grille de bulles.
C'est ça. C'est vraiment c'est créer une barrière de bulles et qui ces bulles qui permettent en fait de faire que les poissons et les bateaux peuvent passer, ça ne les gêne pas. Par contre, les déchets plastiques, eux. Du fait que ces bulles seraient de manière un peu transversale, seraient amenées sur les bords des canaux ou des rivières, et ça permettrait de récupérer les déchets avant qu'ils arrivent en mer. Donc c'est un élément assez intéressant.
Mais donc ça c'est en amont en fait, on va pas aller les récupérer une fois qu'ils sont en mer, mais on les empêche d'y arriver.
Exactement, et c'est un projet hollandais qui actuellement est en train de prendre forme. Donc n'hésitez pas à aller sur le site thegreatbubblebarrier.com. .com,
.com.
Ah, oh, excuse me, I'm very bad. Oh, désolé. Donc voilà, allez voir ceci si vous arrivez à vous débrouiller avec ça. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail et on vous enverra en retour le site avec
le lien pour cliquer dessus. C'est tout.
C'est ça, très bien.
C'est beau à voir parce que je trouve comme ça, ben, les auditeurs, ils savent qu'ils peuvent aussi faire de l'interaction. Et puis s'ils ont des informations de ce type, ben, qu'ils nous envoient des emails et puis on fait passer.
C'est ça.
Absolument. Autre sujet, on va quitter les bords de la mer pour revenir en terre plus helvétique, Julie, puisque, plus ou moins, ouais, enfin pas vraiment,
pas vraiment.
En fait, pas, au départ, oui, mais voilà, on parle beaucoup de pesticides hein, en ce moment en Suisse.
Oui,
Et puis, du coup, on avait envie d'évoquer la chose à l'aide d'une petite chronique, justement, concoctée par Julie.
Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, on vient d'apprendre que Monsanto va disparaître.
Ah ouais ? Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle, en soi.
Ouais, c'est juste ça, bien.
En fait, c'est pas tout à fait une bonne nouvelle. Le géant américain des pesticides, pionnier des OGM, a été racheté par Bayer pour 66 milliards de dollars. Il vient d'annoncer aujourd'hui que la marque Monsanto allait disparaître.
Bayer, c'est cette grosse entreprise allemande de médicaments, c'est juste.
Oui, exactement. Bayer est désormais la plus grande firme agrochimique du monde. Et désormais, uniquement 4 géants de la chimie contrôlent les 2/3 du marché mondial des semences. Le rapport de force entre les paysans et les semenciers devient de plus en plus déséquilibré. David contre Goliath, aujourd'hui c'est presque équitable.
Alors certes, en Europe, on ne peut pas encore cultiver des OGM, on peut simplement en importer pour nourrir notre bétail.
Oui, c'est vrai. Mais en rachetant Monsanto, Bayer achète peut-être ces pratiques douteuses qu'on a longtemps montrées du doigt. C'est bien bien possible. Et ce qui est encore plus inquiétant aujourd'hui, c'est que les géants du monde des semences sont désormais américains avec DuPont Dow Inc. Ils sont allemands avec Bayer et Monsanto. Et chinois avec Kim China qui a racheté le géant suisse Syngenta. Donc en fait, est-ce que les États aujourd'hui auront-ils assez de poids pour s'opposer à ces géants qui gèrent les OGM, le business de ces géants aux chiffres d'affaires vertigineux?
Ça, faut faire confiance à Bayer, ils vendent des médicaments, c'est la santé, non?
C'est ça, exactement, c'est génial pour leurs affaires. Ils vont continuer de vendre le Roundup, le désherbant génial, la vache à lait de Monsanto, et ensuite, quand le cancer sera encore plus généralisé, ils pourront vendre encore plus de médicaments. Et oui, vendre le poison et son antidote, c'est la recette du jackpot.
Ça le dit, en parlant de pesticides, Lucien, on a déposé une initiative récemment du côté de Berne.
Une excellente nouvelle, c'est que le 25 mai dernier, je ne vais pas me tromper sur la date, enfin, j'étais pas préparé à ça.
Elle n'est pas en anglais, la
oui,
date.
Ouais, elle n'est pas en anglais.
C'était vendredi dernier.
Oui,
c'était
vendredi dernier, oui, c'était donc bien le 25. Oui, c'était bien ça. Le 25 mai dernier, donc vendredi dernier, plus d'une centaine de citoyens étaient sur la place fédérale pour déposer l'initiative pour une Suisse libre de pesticides. Et c'était paragraphé par 145 000 signatures. Bon, la Confédération doit encore valider ceci, mais avec 45 000 signatures de plus, c'est fort probable, voire 99% de chances que ça soit OK. Donc, ce qui veut dire que nous aurons un jour à voter pour pouvoir sortir définitivement des pesticides de synthèse en Suisse. Ça, c'est pas merveilleux? Et ce qui est encore plus beau, l'autre cadeau que nous a permis ces 7 sages, j'appelle les 7 sages, 7 citoyens, donc c'est une initiative citoyenne.
Ah, j'ai cru que tu parlais du Conseil fédéral.
C'est pour ça que je dis qu'ils sont beaucoup plus sages. C'est que simplement, l'idée de cette initiative fait aussi que c'est pour accompagner cette interdiction des pesticides de synthèse sur l'entier du territoire national, c'est que les importations ne pourront plus, avec des produits issus d'une agriculture utilisant les pesticides de synthèse, ne sera plus possible. Donc, on pourra importer que du bio. Donc, ce qui veut dire que, ça veut dire pour nous, Suisses, si nous avons l'intelligence d'aller voter oui dans l'urne, nous aurons la possibilité d'aller dans nos magasins sans plus se poser la question de savoir est-ce que je prends avec pesticides ou sans pesticides. On peut y aller, tout sera naturel. Elle n'est pas belle, la vie.
Est-ce qu'on va produire assez de nourriture bio?
Alors là, pour tout ceci, moi, je propose un petit livre qui s'appelle... Alors ça, c'est complètement...
C'est
merci.
La pub.
C'est ouais, la pub.
C'est l'autopub.
C'était pas prévu du tout.
Il rebondit aussi bien que Monsanto, en fait.
Oui, mais justement, je précise que c'était pas prévu du tout. C'était pas prévu, mais je vous dis quand même, je vais le dire. Je vous propose vraiment la lecture d'un petit livre bleu qui s'appelle Tu parles Charles. Manger local, c'est loin d'être l'idéal.
Ouais, pour dire qu'effectivement, on n'a pas forcément de prendre du local pour autant que ça soit bio, même si à terme, effectivement, il n'y aura peut-être pas assez, que la Suisse ne pourra pas produire suffisamment de légumes et de marchandises bio pour notre propre consommation. Mais cela dit, on pourra en chercher.
Alors, je dirais qu'il y a quand même là un peu... Ça mériterait une soirée peut-être radio, mais là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que une agriculture bio sur le long terme, c'est environ 15% de moins de rendement que l'agriculture conventionnelle. Mais ça, sur un certain terme, si on va encore plus loin, à un moment donné, ça se rapprochera parce que les terres, avec les engrais de synthèse et les pesticides de synthèse, s'appauvrissent, l'humus disparaît. Donc, à un moment donné, on arriverait à du caillou. Donc, ça, sur un certain terme. Mais, ceci dit, même dans un très court terme, si l'agriculture bio permet de produire avec 15% de moins de rendement, quand on sait
que l'on gaspille des aliments passent à la poubelle avant d'arriver dans la bouche du mangeur et qu'on parle de 30 à 40% de la production, franchement, il suffit de réduire de moitié notre gaspillage pour pouvoir être totalement bio. Et franchement, elle n'est pas belle, la vie.
Elle est belle. En tout cas, c'est un signe citoyen fort, même si l'initiative, on se rend compte qu'il y aura énormément de résistance politique. D'ailleurs, récemment, le Conseil fédéral a annoncé que le glyphosate qu'on retrouvait dans les aliments en Suisse ne posait aucun problème pour la santé. On se rend compte qu'il y a aussi l'Union suisse des paysans.
Je ne pose aucun problème, le glyphosate.
Énorme à Berne, enfin... Voilà, il ne faut pas être des bisounours, on se rend compte qu'il y aura une grosse résistance, mais c'est un acte citoyen fort. Ça montre qu'il y a beaucoup de gens en Suisse qui en ont marre des pesticides et qui aimeraient vraiment favoriser l'agriculture bio. Donc réjouissons-nous de ce grand pas en avant.
Mais surtout, allons poser notre oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la chance, quand nous sommes le seul pays au monde où le peuple est le souverain, ce qui veut dire que nous sommes plus puissants que Monsanto, Bayer et toute l'équipe. C'est-à-dire que nous pouvons, à travers un oui dans l'urne, si le peuple suisse va voter oui, on va transcender les lobbies de l'agrochimie. Eh, elle n'est pas belle, la vie.
Juste alors, mobilisons-nous.
Alors, oui, allons voter, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Hein, parce
non.
Que
ah non, c'est pour deux ans. Mais là, on est en train de préparer, on est déjà en train de poser des petites graines. Voilà. Alors, j'invite tous nos auditeurs à aller poser ces petites graines autour d'eux oui. Parce que c'est vraiment essentiel.
Il va falloir faire campagne.
Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Il ne faut jamais sous-estimer l'effet qu'une graine peut avoir, engendrer.
Voilà. Aussi petite qu'elle soit.
Mais ça sera presque quasiment... Ah, tiens, il y a un petit son comme ça qui arrive.
On a trop détendu, j'ai l'impression.
Un peu quand même. Voilà, on arrive au terme de cette soirée du 4 juin de la Chaussure Rouge en radio. Concernant l'agenda, eh bien, on va vous souhaiter un très bel été et de belles vacances. Puisque nous, on va se mettre en veilleuse jusqu'à la rentrée, Lucien.
Oui, jusqu'au premier lundi du mois de septembre.
Voilà.
Où là, nous aurons beaucoup de monde qui seront autour du micro. On va aller du côté d'Alternativa, du côté de Genève. Alternativa qui est un festival des alternatives. Des alternatives aussi bien du côté français que du côté suisse, qui est là depuis plusieurs années maintenant, qui a toujours un énorme succès. Et qui permet en fait de mettre en lumière une multitude de solutions à travers des associations, ONG et même individus qui viennent présenter leurs solutions, les possibles demain. Et nous aurons la chance d'avoir différents secteurs qui seront représentés ici au sein de la radio, la Chaussure Rouge Radio. Donc nous aurons plusieurs invités qui viendront nous parler de leurs projets. Donc ce sera vraiment une belle aventure pour découvrir multitude de choses que nous ne connaissons pas encore.
Eh bien, il nous reste à vous souhaiter un très très bel été à toutes et tous. Et puis, on se retrouve donc à la rentrée le 1er septembre. J'espère que vous serez tous là. Enfin, on verra.
C'est le premier lundi du mois de septembre. Je ne sais pas ce que c'est le premier.
Non, c'est le premier lundi du mois de septembre.
Ah, voilà,
je n'ai pas du tout regardé l'agenda précisément.
C'est dans longtemps, on a le temps.
Ouais, on a encore le temps. Vous avez le temps de vous intéresser, bien sûr, à notre site pour voir exactement ce qu'il en est.
Heureusement,
du mois de septembre. Ouais, c'est oui. Fatima, nous.
Heureusement que nous avons Fatima, hein, parce que là, ça merdouille un peu. Là, Merci Fatima. Donc le 3 septembre, le lundi 3 septembre, pour pouvoir faire un petit voyage ensemble.
Parfait. Très bel été à vous tous. Merci d'avoir été avec nous une fois de plus. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en pleine forme à la rentrée.
Merci beaucoup.
À bientôt, bel été.
À bientôt,
salut.
À bientôt, bye bye.